Bonjour, bonjour. Je suis en présence de trois individus qui sont malheureusement mal nommés sur nos petits écrans ici. Il y a une petite erreur qui s'est glissée. Donc charge à moi de corriger. Je vais commencer par le plus à gauche. Et aussi le plus jeune d'ailleurs. Sylvain Kofezain. Non, Kofezain, j'arrive jamais à le prononcer, c'est toujours problème. Mais il m'a interdit de le prononcer à l'allemande, donc bon. Donc Sylvain, qui vient en tant que vice-président d'une association qui s'appelle la Besace du MJ. Besace du MJ, qui est une association nantaise, qui, comme son nom l'indique, propose tout un panier de solutions à destination des meneurs de jeu. Il va peut-être pouvoir nous en dire un petit peu plus.
Bonjour, on m'entend bien aussi. Donc effectivement, la Besace du MJ, on propose tout un tas de... Enfin, on s'apprête à proposer tout un tas d'outils à sortir de la Besace quand on est à sortir de sa Besace quand on est maître du jeu. Donc des outils qui vont permettre de pouvoir... pardon. Voilà, excusez-moi. Des outils qui vont permettre de MJT plus facilement, donc plus efficacement, donc notamment en plus par l'intermédiaire de présentation, de formation, on voudrait en fait que les MJ qui viennent chez nous puissent partager en fait leur savoir. Et pour cela, donc on organise des conférences, des espèces de conférences, des présentations, des espèces de tutoriels. Je sais pas trop comment dire ça. Donc, comment créer son jeu de rôle, comment créer son scénario, ses personnages, ce genre de choses. On a du coup pour ça des articles sur le site, des trucs sur Twitter, Facebook, etc.
Je crois que t'as une autre casquette aussi. Dans le civil.
Tout à fait. Je suis aussi développeur donc dans une entreprise de jeux vidéo éducatif. Donc on est en train de développer un jeu ludo éducatif pour les enfants de 3 à 7 ans sur tablette. Pocolpoc, si vous voulez aller voir.
Accessoirement qui était en présentation, je crois hier avant-hier.
C'est ça.
Au niveau de l'accueil. Je continue le petit tour de table. Merci Sylvain. Par Romain Paulès et non pas Samuel Tarapaki, puisque Samuel n'est autre que l'une des personnes responsables du comité de direction, je crois, de Sans Détour, et qu'il n'a rien à voir avec le sujet. Donc il y a une petite erreur qui s'est glissée, je vous rassure, elle n'était pas sur le programme, c'est déjà un bel avantage. Donc Romain Paulès, en notre présence, Romain Paulès qui va pouvoir faire lui-même sa propre description, parce qu'il a plein de choses à dire.
Donc, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc moi, je m'appelle Romain Paulès. J'ai fondé il y a 18 mois un programme qui s'appelle Expérience JDR. Donc il y a un site qui s'appelle expériencejdr.fr qui a trois vocations. La première et la plus importante pour moi, c'est de faire partager et découvrir le jeu de rôle ou des jeux à des personnes qui ne l'ont jamais pratiqué. Donc via un support que j'utilise aujourd'hui qui est Roll20. Avec un aspect visuel pour les débutants qui peut mettre en confiance parfois quand on se lance dans le grand bain du jeu de rôle, qu'on ne sait pas trop comment démarrer, que parfois j'ai pu, en discutant avec des joueurs, même ici aux Utopiales, peut rassurer, et aussi parfois l'écran, en fait, la présence de l'écran peut rassurer, être tranquille chez soi, permet de, on se dit, tiens, je démarre, ça se trouve je vais avoir plein de vieux rôlistes autour de la table, si j'ai une bêtise, comment ils vont me voir, etc. Donc ça peut retirer aussi cette pression. Donc voilà, j'ai cette volonté là donc de continuer à faire partager cette passion qu'est le JDR par des initiations et à amener de plus en plus de gens à s'y mettre. À côté de ça, j'ai une section que j'ai rajoutée sur le site qui est de conseils, donc pour donner des conseils aux MJ ou aux joueurs qui veulent passer MJ. Donc on se rejoint dessus avec la Besace, on a déjà discuté. Et donc actuellement il y a deux conseils principaux. Le premier, c'est comment écrire un scénario. Le deuxième, c'est comment créer des personnages pré-tirés qui ont vraiment un background fort et qui ont un vrai intérêt dans un scénario. Le prochain que je vais mettre en ligne courant novembre, c'est comment analyser, en fait c'est une méthode d'analyse pour prendre en main facilement un scénario que vous achetez dans le commerce et voir un petit peu comment en extraire la substance essentielle. Et puis la dernière partie, c'est sur les jeux que j'ai, des jeux qui sont plutôt récents ou qui sont encore accessibles, des petites critiques avec les points forts, les points faibles, et parfois des axes d'amélioration sur les jeux.
Merci à toi Romain. On va du coup terminer ce petit tour de table par Renaud Guézenec, ce nom civil sous lequel se cache Hobby. Hobby qui est certainement un nom que tu as utilisé sur quelques forums et puis sur quelques conventions comme la nôtre. Toi, tu as donc développé et tu es aujourd'hui responsable de l'association Rollisteam. Donc tu vas peut-être pouvoir nous décrire un petit peu tout cela. Je te laisse prendre la parole.
Donc bonjour à tous. Donc oui, je suis le développeur derrière Rollisteam. Donc Rollisteam est un logiciel libre qui permet à n'importe qui de jouer en ligne. Il existe depuis 2010 à peu environ. Voilà. Donc je le fais ça sur mon temps libre. Donc il y a forcément eu des vagues de calme et des vagues un peu plus actives. Voilà. Sinon, à côté de ça, je suis utilisateur de Rollisteam depuis 3 ans seulement, 3-4 ans. Donc cette étape-là a vraiment permis au logiciel d'avancer et de coller un peu plus au sujet, puisque je suis un jeune rolliste en fait. J'ai commencé le jeu de rôle après avoir commencé à travailler sur Rollisteam. Voilà. C'est en fait comment expliquer la chose ? C'est que Rollisteam est un logiciel qui est écrit dans des technologies qui sont des technologies sur lesquelles je suis spécialiste. Donc ça s'est né un peu sur un forum de Linuxiens où un type a dit ah, excuse, j'ai besoin d'aide, j'arrive pas à utiliser ce logiciel là qui était Rollisteam, donc l'ancêtre de Rollisteam sur Linux. Et donc plusieurs personnes lui ont proposé de l'aide, etc. Et au final, quand j'ai vu que c'était un logiciel dans les technologies que je voulais devenir expert, disons, j'ai pris le bébé en main, j'ai fait les premiers changements pour faire en sorte qu'il fonctionne sous Linux comme il faut. J'ai eu une première vague de retour, ah ça marche pas sur un ordinateur 64 bits, ah c'est compliqué machin truc, à compiler machin, donc, et ça serait bien d'avoir un installeur, tout ça. Et donc au fur et à mesure, j'ai eu des petits cycles d'amélioration, etc. Et donc au bout d'un an, j'avais fait tellement de modifications que je me suis dit c'est un peu idiot de laisser ça traîner, pourrir sur un forum, autant créer une communauté et puis essayer de refaire partir le truc, quoi. Et donc j'ai créé Rollisteam, donc qui est ce qu'on appelle en langage technique un fork de Rollisteam. Et voilà. Et du coup depuis je travaille dessus.
Merci beaucoup. Pour planter le sujet un petit peu, j'avoue que ces outils, j'ai une expérience personnelle sur le sujet. J'ai été en contact avec ces outils de mise à disposition de plateformes jouables à distance avec une vieillerie qui s'appelle Cryavoc. Je ne sais pas si ça parlera à certains d'entre vous, mais c'est certains d'entre vous étaient certainement pas nés quand ça se jouait. Pour moi, c'était une vraie Madeleine de Proust de pouvoir rejouer à cela avec mon frangin. Et en l'occurrence, ça nous permettait de contourner des problématiques de disponibilité de temps, d'espace, etc. Notamment parce que c'était un jeu de plateau qui couvrait les tables familiales de notre enfance et qui faisait s'arracher les cheveux notre mère. Bon, dans nos espaces personnels aussi un peu exigus, on s'est retrouvé avec une plateforme en Java qui était extrêmement facile à utiliser, qui pouvait s'arrêter tout simplement le temps qu'on vaque à nos occupations et on reprend, et hop, par magie, c'est là, ça prend pas de place, c'est génial. En l'occurrence, par la suite, j'ai testé Rollisteam particulièrement et j'ai eu un outil sous la main qui était particulièrement facile d'utilisation et qui plus est, était largement accompagné par une communauté qui expliquait le sujet. J'en suis arrivé à la conclusion qu'il y avait forcément donc eu une demande sur un tel sujet pour que ce soit développé et que aujourd'hui on faisait face à des difficultés qui pouvaient être outrepassées grâce à ces outils. Les difficultés, est-ce que vous les avez perçues? Est-ce que vous en avez entendu parler? Toi, Hobby, tu viens d'en signifier quelques-unes, notamment des difficultés d'ordre technique. C'est assez marrant d'ailleurs ton parcours d'être devenu rôliste après. Bienvenue. Et du coup, effectivement, qu'est-ce que vous avez comme rapport avec les gens qui se servent des différents outils que vous mettez en œuvre ? Enfin, qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous, ces gens-là ?
Alors, je vais dire que moi, de mon côté, ce que cherchent les gens déjà, c'est la capacité à rester chez soi. Des personnes veulent découvrir le jeu de rôle, mais peuvent avoir une vie de famille, des enfants, c'est pas toujours simple. Quand le petit est malade, de pouvoir rejoindre ses copains, faire du jeu de rôle. Donc déjà, pouvoir rester derrière son écran ou même derrière sa tablette, tout simplement, pour Roll20. Ça permet de s'affranchir de cette proximité, tout en pouvant continuer à avoir certaines sensations qu'on peut ressentir autour d'une table de jeu de rôle. Moi, aujourd'hui, je maîtrise deux tables régulièrement, donc toutes les semaines, j'ai des tables que je maîtrise par Roll20. J'ai un pote qui est au Québec, j'en ai un autre qui est au Japon. Donc c'est un peu compliqué de se retrouver autour d'une table. On se voit tous les 3-4 ans, en vrai. Donc là, on joue toutes les semaines ensemble. Et vraiment, Internet nous permet de s'affranchir de cette contrainte d'éloignement.
Question du coup à Obi. Toi qui administres et est vraiment très au courant de ce qui se passe sur Rollistim, tu as une idée de la portée internationale de l'objet, on va dire ?
En fait, Rollistic était très très connu à l'époque par la communauté francophone, parce que c'était à l'époque le seul logiciel gratuit, on va dire, francophone et utilisable. Mm-hmm. Voilà, parce que Roll20 est sorti quelques années après. Et donc, Rollistim a gardé un peu cette communauté-là. Bon, d'autres ont choisi d'autres solutions quand elles sont sorties, mais voilà. Et en fait, le logiciel Rollistim parle plusieurs langues depuis 2 ans à peu près. Donc, je commence à avoir un peu des contacts avec des Brésiliens notamment et d'autres pays, enfin allemand, anglais, américain, canadien. Voilà, donc ça commence à prendre pas mal. Ce qui plaît chez eux, enfin chez Rollistim, c'est surtout le côté libre. Et c'est moi quelque chose qui est vraiment très important pour moi. Et c'est pour ça que je ne toucherai jamais à d'autres choses que Rollistim. C'est tout. Mais pour revenir sur les raisons de pourquoi on vient vers Rollistim et des outils comme ça. Je suis assez d'accord, ça permet de faire disparaître toutes les contraintes géographiques et de temps. Et pour l'estime, le petit élément en plus, c'est qu'il y a aussi des gens qui cherchent à avoir, l'appropriation de leurs données, et pas avoir des données sur le serveur de quelqu'un d'autre ou d'une compagnie qui est sous des droits américains, etc. Donc ça peut paraître un petit peu parano pour certains, mais il y a des gens à qui ça pose problème. Et le côté un peu communautaire et libre est aussi quelque chose qui est apprécié, quoi. Pas toujours reconnu par tout le monde, mais voilà.
C'est quoi ? C'est de la licence GNU ou...
Ouais, okay, GPL. D'accord.
Ok. Alors, c'est peut-être un peu technique, mais le sujet s'y prête un peu, force est de le constater. Toi Sylvain, est-ce que t'as l'usage de ces outils-là aujourd'hui, ou est-ce que dans la besace on porte ces outils-là ?
Alors moi personnellement, j'ai commencé à utiliser Roll20 quand j'ai un ami belge qui voulait faire du jeu de rôle et il n'avait pas de pote, il voulait faire ça avec nous. Du coup, on lui a dit ok, on va faire ça, on va utiliser Roll20 parce qu'on connaît pas trop et j'avais envie de découvrir, donc on s'est lancé. À la besace, on aimerait avoir créer des articles, écrire des choses à ce propos. Et je pense que c'est un truc qu'on va faire en collaboration avec Romain, parce que c'est exactement le propos, en fait. C'est, sur nos deux sites, c'est exactement ce qu'on cherche à proposer. Donc on va sûrement travailler là-dessus d'ici quelques semaines, voire quelques mois, je ne sais pas trop. Mmh. On va en discuter.
Ok, affaire à suivre du coup.
Et sinon, je voulais revenir sur la raison pour laquelle les gens viennent utiliser Rollistim et Roll20. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle forme d'utilisation que les gens vont rechercher par l'intermédiaire, en fait, de YouTube, du streaming et ce genre de choses. Parce qu'on a pu voir, il y a une nouvelle forme de divertissement, en fait, qui est en train de se faire avec les jeux vidéo, etc. On se contente plus forcément de jouer, on aime regarder les gens jouer.
Tu veux parler de support comme Twitch ou
C'est ça. Okay. Et en fait, le Roll20 et le jeu de rôle, depuis un an et demi maintenant, appris à commencer à vraiment... Il y a eu une énorme communication qui a été faite autour avec le joueur du grenier et sa série Aventure, qui a été faite avec un MJ Maillard et puis deux, trois amis à eux. Et qui a vraiment... Enfin, les gens ont vraiment apprécié vraiment de regarder ces gens jouer à un jeu de rôle comme ça. Enfin, il y a pas de jeu vidéo en fait, c'est juste Roll20, les quatre qui déconnent autour du jeu et puis voilà quoi. Enfin, on découvre le jeu de rôle par l'intermédiaire d'une vidéo.
Juste un point, quand vous regardez ces vidéos, faut bien avoir conscience que la plupart sont montées et qu'il y a une grande différence entre l'expérience de jeu qu'ils ont réellement et la vidéo que vous voyez. Et du coup, c'est vrai que ça rend peut-être la chose plus ludique, plus intéressante à regarder. Parce qu'honnêtement, regarder une partie de jeu vidéo, enfin de jeu de rôle brut, ça peut être vraiment chiant, faut être clair. Voilà, quand on n'est pas dans le jeu et qu'on n'a pas la capacité d'intervenir dans l'histoire, ça peut être un peu embêtant, quoi. Et donc rendre ça ludique, ça demande de couper tous les silences, tous les problèmes techniques qu'il peut avoir, etc. Les pauses bébés, etc., etc. quoi. Donc ça demande un retravail derrière qui est important, quoi.
Alors, en l'occurrence, du coup, il y a Maillard, le joueur du grenier et tout, qui ont fait des lives de leur partie.
Ouais, mais est-ce que c'est aussi intéressant que les épisodes normaux ?
Apparemment, oui, puisque je pense que Romain est le plus apte à en parler parce qu'il est modérateur de leur partie.
Alors, de ce côté-là, en effet, hein, sur des lives, il y a plus de 20 000 personnes qui suivent en moyenne actuellement sur Aventure. Sur Magical Aventure aussi qu'il y a eu récemment. Ça reste un format, on est quand même... On est sur une base de jeu de rôle, mais on reste sur un format de divertissement, forcément. Donc, on retrouve les mécanismes du jeu de rôle couplés à une sensation un peu de divertissement, etc. C'est normal, c'est le but aussi. Moi, ce que je trouve aujourd'hui, justement, un peu ce pont entre machine, jeu vidéo, jeu de rôle... ça permet de donner une vision un peu différente du jeu de rôle aux gens et une autre manière de le pratiquer. Moi, quand j'ai dit à des gens que je faisais du jeu de rôle, la première réflexion qui m'ont sorti, c'est « Ah ouais, c'est bizarre. C'est vraiment étrange. » Ils nous voyaient comme une bande de potes dans le noir avec un paquet de chips et des dés bizarres autour de la table, des crayons et des fiches de perso. Ils sont restés là. Et en fait, moi, j'ai repris un exemple que j'ai vécu parce que mêler jeux vidéo et jeux de rôle, je l'ai fait en 2002 avec un jeu vidéo qui s'appelait Neverwinter Nights qui avait un mode MJ. Et en fait, j'ai initié des potes au jeu de rôle comme ça, en fait, à Donjons et Dragons, parce que ça reprend ce jeu-là. Et donc, on avait déjà cette partie, le meneur de jeu, qui utilisait les mécanismes et le contenu du jeu vidéo afin de mettre en place ses scénarios pour le faire jouer à ses joueurs. Et donc, moi, j'avais des potes de lycée. Enfin, moi, j'étais interne, j'habitais à 200 bornes de mon lycée. Donc on pouvait pas forcément se retrouver le week-end, donc on passait comme ça, on faisait un peu de donjon via ce jeu-là. Et donc déjà, voilà, on avait cette partie ludique, et il y a même un jeu qui est sorti en 2015 qui a repris ce mécanisme de mode MJ qui s'appelle Sword Coast Legends. Et ça m'a étonné d'ailleurs, parce que je me suis dit, tiens, bizarre, ça avait disparu depuis pas mal d'années, et on retrouve ça, j'ai vu des gens le streamer même. Et on a des nouvelles plateformes, voilà, qui nous permettent de diffuser ça, de faire découvrir ça. Et c'est plutôt intéressant dans ce qu'on a aujourd'hui.
Alors oui, il y a pas mal de choses à en dire sur le sujet de la relation avec le monde du jeu vidéo. Juste avant qu'on aborde ce sujet-là, j'aimerais juste creuser un peu le sujet du public aujourd'hui. Alors deux choses. Première chose, si le sujet de ces outils en action vous intéresse, il y a une table de jeu qui est présente au pôle ludique, qui dispose d'un téléviseur d'assez belle taille et sous laquelle Romain nous propose de maîtriser certaines parties. Donc, en tant que public, vous pouvez tout à fait aller vous balader derrière, voir ce qui se passe. Ça vous donnera un petit peu une idée du matériau qui est à l'œuvre. Deuxième chose, du coup, on a parlé de Maillard et de ses émissions. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a une certaine forme d'appétence d'un certain public qui rencontre une certaine frustration parce que n'ose pas forcément, de manière autonome, aller vers jeu de rôle. On a des gens, j'ai cru comprendre, en tout cas c'est au gré des discussions qu'on a eues ensemble, j'ai cru comprendre qu'on avait des gens nouveaux qui voulait aller vers ça. Et du coup, je me demande quel est le rôle de vos supports là-dedans.
Bah, je vais dire que de mon expérience, j'ai vu beaucoup de gens qui avaient vu ces vidéos et qui sont intéressés aux jeux de rôle et qui se sont tout simplement inscrits dans le tissu associatif de leur coin, quoi. Ils ont, enfin, clairement, j'ai vu des communautés sur Paris qui ont grandement pris des utilisateurs dans les premiers mois après les premières diffusions, où il y avait des gens qui avaient vu ça et qui s'est dit ah c'est chouette, on va jouer. Et après, il fallait leur expliquer que ce qu'ils avaient vu c'était une pratique un peu particulière puisque c'était en ligne et que il y avait la possibilité de jouer autour d'une vraie table et que justement les assos étaient là pour ça. Donc je pense que ça a pas mal servi. Après, il y a quand même eu, moi j'ai quand même vu un nombre de mes téléchargements augmenter, hein, ça c'est clair. Parce que en général, un mois normal de Roll Steam, c'est 600 téléchargements. Un mois de la sortie d'une nouvelle version, c'est à peu près 1000 téléchargements, 1200. Et là, après la première diffusion de fin de l'épisode 1 de Aventure, j'ai eu 3 mois plus de 2000 téléchargements, quoi. Voilà.
Ouais, t'as par juste exemple, doublé quoi. En fait, c'est aussi simple que ça.
Ouais.
Ok. Sur le sujet.
Ouais, j'avais fait aussi pas mal de versions cette année-là, donc du coup.
Tu gardes une.
Ouais, je prends un peu de mérite quand même. Hein.
D'accord. Sur le sujet, messieurs, est-ce que je suis désolé de vous interrompre. Est-ce que vous voulez intervenir?
Bah, moi, de mon côté, étant présent dans la communauté du Twitch de Maillard et de Crane aussi, qui fait partie d'Aventure, j'ai eu beaucoup de gens qui ont appris un peu ce que je faisais et qui m'ont demandé si je pouvais les initier. Donc, c'est comme ça qu'Expérience JDR a aussi pris de l'ampleur. Donc, si je veux pas, enfin, si on parle un peu de chiffres, en 19 mois, j'ai fait 57 initiations via Roll20. J'ai 80% de joueurs qui ne connaissaient pas le jeu de rôle, et dans ces 80%, j'ai 90% qui continuent le JDR aujourd'hui, soit par Roll20, soit dans le milieu associatif.
Et t'es sur les rotules?
Je suis bien, honnêtement, aujourd'hui, je suis bien crevé, j'avoue. C'est quelque chose qui prend énormément de temps en termes de préparation. J'ai même des gens qui me contactent aussi pour me dire tiens, il y a tel jeu qui va sortir, il y aura moyen de le découvrir, etc. Donc c'est de l'investissement personnel, et j'ai un boulot qui me prend déjà de base pas mal de temps. Donc, s'il y a des gens, je vais en profiter, hein, s'il y a des gens qui ont envie de participer à cette expérience, que ce soit pour écrire des conseils, partager votre petite patte de MJ, ou proposer de faire des initiations aussi par Internet, bah, n'hésitez pas à me contacter, soit sur le site expériencejdr.fr, soit je suis encore là jusqu'à ce soir. Moi, ça me fait plaisir, au contraire, de voir des volontés, hein, j'en ai de plus en plus qui viennent, qui sont motivés, qui ont envie de partager cette expérience, et vous êtes les bienvenus, réellement.
Ce petit coup de pub me fait très plaisir parce qu'effectivement, l'objet, c'est quand même de rendre accessible un média qui est le jeu de rôle, dans l'absolu, hein, avec quel que soit l'outillage qu'on a derrière, j'abonde dans ton sens. Sylvain.
Moi, en fait, j'ai pas de chiffres à donner pour répondre à la question initiale. Cela dit, j'ai une espèce d'observation que j'ai pu faire, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous connaissez OGaming, qui est une plateforme, une web TV comme on l'appelle, qui fait donc qui stream des jeux vidéo de toutes sortes. Ils en ont beaucoup, et ils ont fait l'expérience de streamer du jeu de rôle, mais pas par l'intermédiaire de Roll20 et Rollissime. Ils se filmaient, ils étaient autour de la table et ils se filmaient, ils avaient des déguisements, ils jouaient le jeu, etc. Ça a assez bien marché, mais apparemment ça n'a pas suffisamment bien marché parce que ils ont fini par arrêter l'émission au bout de 2 ou 3 saisons. Et je pense que c'est possible que le fait qu'ils aient pas le support Roll20 ou Rollisteam, bah, ça a peut-être d'une certaine manière bloqué les gens, le fait de voir seulement des types autour d'une table et de se dire bah je peux pas en profiter parce que bah ils sont autour d'une table, quoi. Moi j'aimerais bien en faire, enfin j'imagine que avoir contrairement à Aventure où là ils voyaient bien que chacun était devant son PC et du coup bah ils se disent bah j'ai juste un truc à télécharger et je peux jouer avec des gens, quoi.
Alors, je vais me permettre de répondre à ce sujet, parce que là, du coup, c'est par expérience. Ça fait pas mal de temps que je fais que je me jette, comme on dit dans le milieu. Et du coup, j'ai très régulièrement eu des gens qui ne jouaient pas, qui étaient très très taquinés par le sujet, qui auraient aimé l'approcher, sans vouloir se mouiller. C'est-à-dire qu'ils voulaient être là juste pour être présents, regarder. Je m'y suis toujours opposé. Je me suis toujours opposé dans la mesure où effectivement un tiers spectateur est un tiers qui va être forcément amené à un moment à vouloir interférer, à parler avec les interlocuteurs autour de la table. Donc forcément, ça crée une rupture dynamique. Et du coup, le fait est que c'est soit que tu joues, auquel cas, effectivement, je t'explique deux, trois trucs, machin, soit tu es absent. Et l'avantage que je vois avec justement les supports YouTube, les supports donc purement vidéo, mais aussi les supports tels que Roll20, Rollisteam, c'est que ça a donné une possibilité de visibilité pour un public, entre guillemets, voyeur, sans mesquinerie, hein, pour un public voyeur de jeux de rôle. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Complètement d'accord.
Je suis d'accord aussi sur ce point-là. À la fois cet aspect voyeur, hein, moi j'ai des personnes qui m'ont demandé s'ils pouvaient juste venir voir si je diffusais sur Twitch, etc. Ce qui risque potentiellement d'arriver prochainement, mais pour l'instant je ne le fais pas parce que déjà c'est les gens qui s'inscrivent aux initiations, je les connais pas, donc c'est un peu difficile. Mais sur des jeux que j'ai envie de faire découvrir, peut-être que ça viendra. Ça c'est le premier point. Sur le deuxième, l'aspect du support visuel, je l'ai vu pendant les Utopiales, je pense que Eric, tu as pu le voir aussi. C'est quelque chose qui peut parler à des gens qui ont envie de s'y mettre. Et j'ai eu l'expérience, ça a été lundi soir, qui m'a assez surpris, d'une table avec que des anciens rôlistes, et qui se sont retrouvés face à ce support visuel, cet outil numérique. Et donc moi, je savais pas trop, hein, moi j'ai moins de 30 ans, je me retrouve avec 4 personnes qui ont plus de 30 ans de JDR derrière eux. Et donc je leur propose un peu cette nouvelle formule, donc j'étais un petit peu intimidé forcément. Et en fait ça s'est très très bien passé. Ils m'ont dit, alors certains m'ont dit, ouais non moi j'ai besoin de lancer les sentir rouler autour de la table. Et je le comprends parfaitement, j'aime aussi jouer autour d'une table. Hein. Moi quand je maîtrise un Cthulhu à la maison, je sors les chandeliers direct. Donc forcément c'est important. Mais par contre d'autres ont fait la remarque, notamment une qui est mère de famille, qui m'a dit, bah ça pour présenter le JDR à mon fils, ça peut être vachement bien d'avoir de mettre en place ce support visuel. Les autres pour dire, bah, c'est pareil, pour faire découvrir le jeu de rôle, jouer à distance, etc. Parce qu'on a tous, même autour d'une table, dessiné un bout de schéma sur une feuille de papier qui traînait. Voilà, l'utilisation de ces supports visuels permet de rendre plus accessible des fois, même si la limite qu'on a, c'est notre imagination et notre créativité. Et ben là, on peut aussi la stimuler, donner des indices, émettre des pistes. Voir des gens qui se disent, tiens, ils repèrent ce petit élément-là sur le décor. Moi, pour moi, j'ai juste décoré ma map, hein, j'ai rien fait d'autre. Et bien, eux, en fait, ils se disent que ça a de l'importance, donc ça crée aussi des nouveaux mécanismes, des situations un peu inattendues parfois, et c'est que du bonheur.
Je vais rebondir là-dessus, parce que quand tu dis que ça crée de nouveaux mécanismes, je suis assez d'accord. Dans le sens que je pense que ça va créer une espèce de divergence au niveau du jeu de rôle, et qu'il va y avoir le jeu de rôle visuel, enfin, le jeu de rôle virtuel, et ses codes, et ses techniques et ses secrets, et qu'on va garder aussi le jeu de rôle traditionnel autour d'une table, et que certains voudront utiliser l'outil numérique pour pallier aux contraintes techniques, aux contraintes géographiques, etc., et vont rester sur un jeu, on va dire, très très proche de ce qu'on peut voir autour d'une table, et que d'autres vont s'approcher vers un jeu de rôle où le numérique est vraiment quelque chose d'une brique importante. Et ils vont vraiment se baser là-dessus. Et on commence à sortir. Et aux États-Unis, des jeux indie commencent à sortir pour être uniquement joués en table virtuelle et avec des mécaniques de jeu associées à ce que peut faire un ordinateur, quoi.
Alors, tu vois, personnellement, je vais avoir un petit bémol sur le sujet. Je pense que les différents supports seront liés, mais qu'ils dépendent plutôt de notre approche à l'apprentissage. On va distinguer le visuel, l'auditif, le kinesthésique, et kinesthésique qui apprend en touchant, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. Et je pense qu'en fait, dans le jeu de rôle, on a des frustrations qui peuvent naître aussi en fonction de nos méthodologies personnelles, quoi. Alors, effectivement, quand D&D on tripotait de la figurine pour résoudre des situations. Aujourd'hui, on est dans une pratique du jeu de rôle sur table qui est beaucoup plus dématérialisée, en tout cas qui est devenue beaucoup plus dématérialisée, qui se produit beaucoup plus dans notre imaginaire. Au mieux, on fait un plan dans l'essentiel des cas. En tout cas, c'est ce que propose le jeu de rôle papier aujourd'hui. Pour autant, je peux avoir des interlocuteurs qui ont nécessairement besoin de se représenter physiquement quelque chose. C'est là que l'outil peut intervenir. Moi, j'imagine parfaitement demain des tables sur lesquelles je peux manipuler des figurines.
Ça existe déjà.
Et voilà, avec une carte qui réagit en dessous. Mais démocratisé.
Ça coûte encore un peu cher.
Voilà, mais demain, je l'imagine très bien. Maintenant, je suis persuadé que parmi mes joueurs, une partie n'en aura pas besoin. Et que ce sera plutôt une manipulation qu'ils feront parce que ça aide Jean-Paul à se représenter la situation.
J'ai envie de dire, jeu de rôle de base, c'est juste un crayon, des dés et une feuille.
Je suis pas d'accord. Pour moi, le jeu de rôle, à la base, c'est l'imagination, point.
Oui, enfin, je veux dire, les outils nécessaires pour faire un jeu de rôle, pour faire une partie de jeu de rôle à la base, des dés, une feuille, un crayon, mais même pas besoin de dés d'ailleurs, juste le minimum de vital, c'est ça. Et ensuite, le reste, c'est des choses qui vont permettre de s'immerger un peu plus dans l'histoire.
Si je te dis, tu es dans un couloir, il est jaune, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que j'ai besoin d'un crayon ? Est-ce que j'ai besoin d'une feuille ? Est-ce que j'ai besoin d'un...
Absolument pas. Voilà. Mais je veux dire, il faut bien noter deux, trois trucs quand même. Il faut avoir un crayon et un papier sous la main, c'est quand même
pas forcément
plus pratique.
Parce que si tu viens de te réveiller et que tu es tout nu avec une chemise d'hôpital, t'as pas de crayon sur toi. Donc comment le justifier que tu prends des notes ?
Excuse-moi, j'ai pas entendu. Parce que...
Voilà, ce que j'essaie de montrer, c'est que...
On va attendre que l'annonce se termine, si tu veux, ouais. Parce que c'est un peu gênant. Merci.
Voilà.
Voilà, du coup, moi, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on a pris des habitudes d'avoir des jeux avec des dés, et prendre des notes, et que tout ça, au final, ça sert pas à grand-chose, quoi. C'est vraiment des repères. C'est la façon dont on a abordé le jeu de rôle, je pense, en premier, dans les premières années, ou nos premières parties. Et du coup, on se dit, ah ben moi, ma première partie, j'avais des dés, j'avais des crayons. Si j'ai pas ça, c'est pas un jeu de rôle, quoi. Non. Voilà, c'est caricatural, mais c'est un peu l'idée, quoi.
Je suis d'accord avec toi, et en même temps, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi pour dire qu'on a besoin que de notre imaginaire pour faire du jeu de rôle. Mais en même temps, on a aussi besoin d'outils pour un papier et un crayon. Ça permet de poser ses idées. Ça permet, quand tu écris quelque chose, tu as besoin de poser tes idées quelque part. Même si tu as tout un tas d'imaginaires dans la tête, ça permet de ne pas te disperser. Et c'est pour ça qu'un papier et un crayon, pour moi, c'est le minimum pour faire du jeu de rôle dans de bonnes conditions.
Ça peut être ton besoin à toi. Bah, ça peut être un truc que tu peux reconnaître comme vital pour toi parce que tu en as besoin, tu as besoin de noter. Mais je veux dire que dans l'absolu, si vous pensez en avoir besoin, faites-le, évidemment. Voilà. Mais je dis que on n'a pas besoin de ça pour faire un jeu de rôle, quoi.
Je pense que l'avantage de ces outils, hein, que ce soit Rollisteam, Roll20 ou autre, c'est que ça a l'avantage même à distance de se mettre d'accord, malgré l'absence du langage du corps, quand on n'a plus que le verbe pour s'entendre et un peu de ton, qu'on perd tout l'effet des regards, etc. On a besoin d'un mécanisme tiers qui nous permette de communiquer plus. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va implémenter de la carte sur Rollisteam, qu'on va implémenter de la carte sur Roll20, etc. pour donner une forme à l'environnement.
Qu'on utilise des figurines et des cartes sur la table.
Tout à fait. Alors, je vais juste ajouter un truc. Il y a aussi des mécanismes vachement intéressants sous les différents supports qui existent. C'est notamment les mécanismes de chat qui permettent de rendre possible le conciliabule, y compris le conciliabule hors de l'oreille du MJ. Ce qui est très intéressant en termes d'interaction et qui vise à reproduire les effets de la table. Si tu es là, Jordan, sache qu'il est temps d'y aller.
Juste pour compléter un peu ta réponse, effectivement, les fonctionnalités de chat sont importantes parce qu'elles permettent de conserver l'immersion, c'est-à-dire que en général on utilise les outils de table virtuelle associés avec du vocal, donc la partie est sur le vocal et l'écrit permet de faire des petites blagounettes, de régler quelques détails techniques, etc. Donc oui, ça permet de garder un peu l'immersion. Autre fonctionnalité du chat et qui est très importante et qui moi j'essaie de travailler là-dessus, c'est que ça permet à des gens par exemple muets de jouer. C'est tout con, mais moi j'essaie de faire un effort pour permettre à des utilisateurs avec des handicaps de jouer avec Rollisteam, quoi. Et voilà, j'ai pas encore eu l'occasion de vraiment travailler avec une association ou des choses comme ça qui peut et d'avoir des conseils, des retours de ces utilisateurs-là et pour essayer d'aller dans ce sens-là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup pour mon côté professionnel et pour mon logiciel. Donc voilà, je fais aussi un appel au cas où.
Comme tu dis, le chat en fait va aussi permettre une troisième mécanisme qu'on retrouve dans le jeu de rôle sur table et sans interrompre le rythme ce coup-ci, c'est le concept d'aparté. quand vous voulez prendre un joueur à part, ben, autour d'une table, vous le prenez dans la pièce à côté, ça arrête un peu la partie, ça laisse les joueurs entre eux. Quand vous êtes sur un outil numérique, donc avec un support vocal d'un côté, rien ne vous empêche d'écrire en aparté à un joueur pour lui communiquer une information que seul lui va avoir. Et il n'y a que lui qui la voit. Donc on reprend ce mécanisme, mais ce coup-ci, sans casser le rythme de la partie qu'on pouvait avoir avant. Et ça permet, on garde vraiment tous ces codes, et ça donne un autre aspect aussi à la partie. C'est vraiment vous donner la petite info à une seule personne, vous êtes sûr, que, et en plus, vous ne savez, les autres joueurs là sont sûrs qu'il n'y a pas d'aparté, quoi. Ils ne le voient pas, donc c'est la surprise quand ils découvrent, c'est tiens, comment t'as appris ça ? Voilà. Donc ça permet de rajouter aussi des choses pour l'immersion, etc. Donc parce qu'en plus vous avez votre web, enfin sur Roll20 notamment, je sais pas sur Rollsteam, mais il y a la webcam, hein, qui peut être mise, et donc les autres joueurs ils voient rien, quoi, ils voient pas parler, donc ils se disent mais quand est-ce que cette information elle a pu filtrer.
Alors accessoirement, parce qu'on parle de machines en général au service du jeu de rôle, moi c'est des mécanismes que j'ai réalisés par texto, hein. En tant que MJ, je veux glisser une information à un de mes joueurs sans interrompre la dynamique du rôle. Eh bien, bam, j'ai balancé un texto parce que c'était le seul usage. En fait, c'était le seul outil qui était à ma disposition à ce moment-là.
Mais est-ce que la rédaction de cette note, elle coupe pas un petit peu la partie quand même ?
C'était dégueulasse. On va le dire clairement. Hein, c'était vraiment un truc. Mais ceci dit, ça a marché. C'est-à-dire que ça a créé le souffle nécessaire pour qu'il y ait une dynamique qui s'imprime derrière. Après, il est vrai que je l'ai fait dans un contexte où j'étais avec des joueurs que je connaissais très bien, que je savais qu'on avait des cadres de référence qui étaient très communs. Donc, en peu de mots, je passais un message.
Qui avait leur numéro surtout.
Ce qui aide. J'avais leur numéro et j'avais un autre élément, c'est le métadiscours, j'avais le regard. Donc du coup, je capte le mec, je le vois lire, etc. Mais il se passe. Enfin, c'est un aspect dynamique d'animation, mais qui est passé par un outil idiot qui est le téléphone, quoi.
Du coup, moi j'avais une question un petit peu à ce propos, c'est que quand on regarde Aventure, Maillard aime bien à certains moments demander aux autres d'enlever les casques. Donc, du coup, ça coupe effectivement la dynamique autour de la table, mais pas celle du public. Parce que lui, il continue à regarder, il sait ce qui se passe. Est-ce que vous conseillez du coup plutôt d'utiliser le chat pour transmettre ce genre d'infos, ou est-ce que au contraire isoler quelqu'un des autres en demandant aux gens non concernés d'enlever leur casque? Qu'est-ce que vous préféreriez qu'est-ce que vous conseillez comme mécanique?
Alors moi, dans ma pratique du jeu de rôle, j'essaie de faire le moins possible d'aparté, et en général je fais plutôt, enfin je suis sur une campagne de très longue durée, là ça fait 3 ans que je suis dessus, donc je joue toutes les semaines à peu près dessus. Donc les apartés que j'ai besoin de faire dessus sont très très faibles, et du coup j'utilise un petit message. Mais il m'est arrivé par contre de faire des parties complètes avec un seul joueur, parce que ça c'était pas logique que les autres soient là, quoi. Tout simplement parce que en fait les personnages étaient géographiquement séparés, et que voilà, il n'y a pas de raison. Donc le numérique permet justement de faire des parties le dimanche matin en pyjama, quoi. Donc tant qu'à faire, quoi. Voilà, si les deux personnes sont réveillées, pourquoi pas.
Bien, 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 bien. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur le sujet, des sujets que vous souhaiteriez aborder?
Ouais, moi j'ai.
Vas-y.
Bon, revenir sur le sujet, les machines au service du jeu de rôle. Rollsteam, donc c'est un logiciel, mais c'est aussi une assoce. Son but est de promouvoir les logiciels libres pour le jeu de rôle. Et donc de ce côté-là, j'ai d'autres outils que Rollsteam. J'ai notamment RCM, qui est Rollsteam Convention Manager. Voilà, qui a été utilisé par Projet R sur plusieurs conventions, et qui permet en fait de gérer des pôles ludiques, ouais, comme vous avez à Nantes à peu près. Voilà, avec de façon numérique, avec du coup la liste des parties, le nombre d'inscrits. On peut noter évidemment les numéros des personnes. Ça gère aussi le nombre de tables disponibles. Savoir si le MJ est en partie, sa partie dure 2 heures, donc dans 2 heures, il sera encore disponible, donc on peut relancer un truc. C'est un outil qui est libre et à disposition de tout le monde. J'ai pas encore beaucoup beaucoup de retours, mais j'en fais la pub. Si un jour vous voulez organiser une convention de jeux de rôle, n'hésitez pas. Voilà.
Merci Renaud, je me sens un peu honteuse qu'on s'en sert pas. Du coup, je pense que je vais t'envoyer du monde. Merci messieurs, peut-être un autre sujet à aborder. Dans ce cas-là, je vais permettre au public de réagir. Est-ce que vous avez des questions ? Attention au milieu. C'est toujours au milieu, c'est ce qu'on disait hier soir, c'est toujours au milieu qu'il y a une question. Pas facile d'accès, tout ça.
Attention les oreilles, hein. Elle parle fort.
C'est pas vrai, plus... Ça marche ?
Ouais, ça marche mieux.
Ah oui, c'est moins fort que quand je parle naturellement, en fait. Donc, moi, je voulais juste réagir par rapport aux crayons, papier, dés et compagnie. Personnellement, je suis mère de famille et en plus, je suis psychologue en maison de retraite. Alors, en tant que mère de famille, j'ai un enfant de moins de 3 ans. Quand j'ai commencé à lui faire du jeu de rôle, je lui mettais pas des dés dans les mains parce que sinon il allait mourir. Ça aurait pu être vachement pratique pour aller en convention, mais il paraît que c'est pas bon, enfin que c'est pas très bien légalement. Donc j'ai préféré éviter de lui mettre des dés dans les mains et on a quand même pu faire du jeu de rôle. Et c'est vrai que bon, on lui a tendu un crayon à papier, une feuille de papier, mais il a rien écrit, ce petit con. Il a crayonné comme un malade. Donc depuis, on est passé sur une sorte de jeu de rôle en famille, sans crayon à papier et sans dés. Et en fait, moi, je fais en tant que psychologue en maison de retraite, je fais des ateliers mémoire et j'utilise le jeu de rôle une fois par mois. Je fais la journée de l'enquête. Et j'utilise un mélange de jeu de rôle et de murder, en fait. Mais là, pareil, les personnes âgées, c'est vraiment chiant, en fait. Hein. La moitié d'entre eux ne voient pas. Donc, on ne peut pas leur faire noter quoi que ce soit. Ils ont de l'arthrite dans les doigts, donc on ne peut pas leur faire jeter des dés. C'est très, très emmerdant. Et en plus, entre ceux qui ne voient pas, ceux qui n'arrivent plus à écrire parce qu'ils sont à moitié paralysés, sinon ils ne seraient pas en maison de retraite, et ceux qui n'entendent pas et compagnie, autant dire que en ce moment, dans ma vie personnelle, en dehors des conventions, avec Progère, je développe beaucoup le jeu de rôle sans les dés et sans les crayons. Donc c'était juste pour réagir à ça, parce que je mets beaucoup plus à faire du jeu de rôle sans crayons, sans dés, mais vraiment plus dans l'imagination et la théorie de l'esprit. S'il y en a qui recherchent sur Internet, la théorie de l'esprit, c'est un truc neuropsychologique, quoi. Mais c'est très, très utile dans le jeu de rôle. Et, voilà. Et si vous avez des personnes âgées dans votre entourage qui commencent un petit peu à perdre la mémoire, faites-leur faire du jeu de rôle, sans les dés, sans les crayons. Faites-leur faire du jeu de rôle. Vous allez voir, ça va les booster. Voilà, c'est juste ma petite réaction.
Merci à toi.
Juste un truc, s'il y en a un qui veut développer une plateforme jeu de rôle sur Wi-Fi, sur la Wi-Fi, c'est pas la Wi-Fi, la Wii, pardon, excusez-moi, ce serait génial parce que toutes les maisons de retraite sont équipées de la Wii et nous, professionnels, on serait ravis de faire du jeu de rôle aux personnes âgées en utilisant un écran. Donc voilà, la Wii est votre amie.
Moi, je laisse ça aux techniciens, ils ont des profils, ouais. qui vont bien. Merci. Dis-moi, tu te caches où pendant la journée ? Est-ce que tu as peut-être créé une certaine envie de prendre contact avec toi dans le public, en fait ?
Pas que dans le public, d'ailleurs, toi ? Ça m'intéresse beaucoup.
D'accord, mais tu seras disponible sur le pôle ludique ou pas ?
Elle est dans le centre Progère, pôle ludique, oui.
Oui, en fait, je suis avec Progère, on fait des démos. Je vais me relever, du coup, parce que tout le monde va m'observer. en fait, avec Progère, on fait des démos de jeux de rôle et des murders, des choses comme ça. Donc, généralement, on est tous les ans aux Utopiales, au pôle ludique, effectivement.
D'accord.
C'était pas le but de mon intervention.
Non, mais du coup, j'en profite.
Voilà. Progère, c'est bon, mangez-en.
J'en profite parce qu'effectivement, tu soulève des sujets qui sont un peu connexes, mais qui vont aussi de pair avec une table ronde qui avait lieu hier soir sur le jeu de rôle et la formation. Effectivement, donc l'usage un peu plus développement ou autre du jeu de rôle. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Merci pour ton intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Oui, bonjour. Alors d'abord, je trouve que ma voisine de gauche est assez flippante.
Rassure-toi, nous
assez
aussi.
Flippante, hein. Oui, non, juste une petite question. Je ne connais pas trop l'outil Rollisteam, les outils dont vous avez parlé. Je suis très intéressé par tout ce qui est musique d'ambiance. Et je voulais savoir que proposaient justement vos applications en matière de musique d'ambiance, parce que je n'ai jamais trouvé rien de bien convaincant justement pour des parties en ligne.
Alors, y a un aspect technique derrière tout ça, c'est qu'un logiciel en France qui fait du partage audio, il peut tomber sur des lois de protection des droits des musiciens, etc. Droits d'AFSI, Adopi, tout ça. Donc moi, qui suis une personne seule qui travaille sur un logiciel, j'ai pas 25 avocats derrière moi pour aller soutenir ma cause auprès de différents tribunaux contre SACEM et compagnie. Donc j'ai fait le choix en fait d'autoriser donc la synchronisation de musique, mais il faut que les fichiers soient soit présent chez tous les potes utilisateurs. Donc ça, c'était premièrement une contrainte technique de Rollistic, donc c'était déjà de Rollistic. J'ai fait le choix de ne pas faire du streaming audio exprès pour pas tomber dans le problème légal, sachant que le problème légal est du coup déporté à l'utilisateur. C'est à l'utilisateur de prendre le risque d'envoyer ses musiques éventuellement à ses joueurs. Il prend le risque, ou alors si vous voulez le faire légalement, il faut que tout le monde obtienne les musiques de façon légale. Voilà. Autre solution que j'ai mis en place du coup pour pallier un peu ce problème là, c'est que on met les musiques à soi on les met sur un poste tiers, donc sur un serveur en ligne par exemple, et on peut aller les lire. Donc ça permet en fait de gérer un seul poste et de pouvoir les lire comme ça, quoi. Et sur le plan technique, nous, de notre côté, pour partager nos musiques, évidemment de libre de droit, on utilise des logiciels de Dropbox ou équivalent, qui permet de partager directement et de mettre à jour directement le dossier. Voilà, ça permet d'avoir cette fonctionnalité dans Rollistim.
Moi, côté solution sur Roll20, en fait, j'ai opté pour deux méthodes, une simple et une beaucoup plus compliquée. La méthode simple, c'est que Roll20 intègre directement un jukebox avec plusieurs bibliothèques. Donc il y a Tabletop Audio, à une époque il y avait SoundCloud, mais il y a eu 2-3 petits accrochages entre les deux, mais il y a quand même 4 prestataires de son aujourd'hui, où on peut trouver quand même pas mal de musique d'ambiance, de cris, d'effets de tic-tac d'horloge, etc. Donc ça, c'est la solution, je veux dire, de facilité. La deuxième, c'est je travaille aussi dans l'informatique, hein, moi je suis architecte logiciel. Et donc j'ai développé, parce que Roll20 permet de développer une API qui se connecte à un serveur Shotcast, donc serveur de web radio, c'est vieux, hein, sur lequel je suis inscrit, hein, sur quelque chose qui s'appelle Listen to My Radio, qui paye ses droits, tout simplement, et donc avec mon Winamp, tout simplement, je charge ma playlist Shotcast sur le serveur, et elle est diffusée derrière dans la partie via le petit plugin que j'ai écrit.
Par exemple, ta web radio est lisible dans Rollistim, de base, voilà, comme Winamp.
Alors, je pense qu'il y a une partie du public qui, comme moi, a décroché. Donc, là encore, ils sont accessibles, hein, ces gens-là. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous avez besoin de lumière sur les terminologies très techniques qui ont été employées. Y a-t-il d'autres questions ? Parce qu'on a encore un petit peu de temps, on peut en profiter.
Voilà, moi. Pour ma part, je joue en ligne parce que j'habite dans un endroit où il n'y a pas d'association. Et avec ma communauté, à savoir Virtua JDR, on est en train de découvrir un logiciel qui s'appelle Discord. Est-ce que vous avez des infos là-dessus ?
Personnellement, non, mais je vais laisser les invités répondre.
C'est un logiciel d'audio, enfin, genre.
Il peut faire de l'audio, ça, on n'a pas encore réussi pour l'instant à le paramétrer par rapport à Skype, c'est pas ça, ou par rapport à TeamSpeak. Par contre, il a des fonctionnalités de chat écrit, et il permet, a priori, de se créer soi-même son serveur simplement en disant oui, je crée mon serveur, sans paramétrage derrière. Ça, c'est un peu l'avantage par rapport au fait d'avoir X tables sur le même serveur type TeamSpeak, quoi, en fait. Mais après, il paraît qu'il y a plein de fonctionnalités, mais pas eu l'occasion de développer ça.
Alors, pour connaître et avoir utilisé Discord, hein, donc en effet, il y a les fonctionnalités audio, il y a les fonctionnalités de chat écrit, on peut créer soi-même son serveur. Il faut bien le paramétrer, par contre, au niveau des droits. Il y a un gros travail de paramétrage à faire, sinon il peut y avoir quelques petites dérives très vite. Parce qu'en plus, ce serveur peut être, si tu règles mal les droits, il peut être accessible publiquement à des gens que tu n'as pas forcément autorisé. Ah. Et ça, c'est déjà vu. Donc c'est pour ça. Il suffit juste de connaître en fait le nom du chat, tu l'ajoutes, et si derrière tu n'as pas mis une admission obligatoire validée par quelqu'un, tu as quelqu'un qui débarque, tu ne sais pas d'où il vient. Derrière, Discord est en train aussi d'évoluer, hein, pour ajouter des fonctionnalités de tableau blanc, etc. Donc après, il y a des gens qui vont peut-être l'utiliser pour du JDR, on verra. Pour l'instant, il n'y a pas de système de stockage de fiches de perso et autres, donc ça implique d'avoir aussi pas mal de données en interne. Mais non, Discord se lance comme un bon concurrent à TeamSpeak. Moi, je suis encore sous TeamSpeak parce que je le fais héberger sur le même serveur que mon site web. Donc j'ai pas de problème de bande passante, de câble ou quoi que ce soit. Mais c'est un outil qui peut être assez sympa pour la partie audio, chat écrit.
Alors personnellement, j'utilise Discord à la place de TeamSpeak plus pour le jeu vidéo que pour le JDR. Mais c'est un logiciel que j'apprécie beaucoup parce que contrairement à TeamSpeak, il est gratuit. On peut se créer ses serveurs, autant de serveurs qu'on veut. On peut avoir autant de chat vocal qu'on veut. La grosse différence avec TeamSpeak, c'est que y en a un qui où il faut se payer le serveur et pas l'autre en fait. Et Discord a été lancé assez récemment, ça doit faire à peine un an que ça a été lancé. Donc du coup, ils sont encore en développement, il y a encore beaucoup de fonctions qui arrivent régulièrement. Donc il va sûrement y avoir un moment des hauts débats au niveau des bugs, ce genre de choses à fixer, mais je pense que ça va être c'est déjà un très bon concurrent de TeamSpeak et mis à part les problèmes de paramétrage qui sont de toute façon les mêmes, plus ou moins les mêmes que sur TeamSpeak, c'est aussi bien en fait. Après c'est en fonction de ce qu'on aime.
Alors je pense qu'on va pouvoir peut-être conclure cette table ronde. Je voudrais remercier les invités tout d'abord pour leur disponibilité et leurs éclairages. Rassurer le public aussi sur l'aspect technique parce que j'avais des invités aujourd'hui qui ont une approche très technique du sujet. Mais je vous rassure, moi néophyte parfait sur ces usages, je suis bon à l'utilisation d'un logiciel et d'un soft. Mais je suis incapable d'aller bricoler dedans et je m'en sors très bien. Donc c'est tout à fait accessible. Les gars présents ici sont toujours présents ce jour sur le pôle ludique. Donc si vous souhaitez leur poser des questions, ils seront certainement ravis de vous accueillir. Si vous voulez encore une fois voir à l'œuvre ces outils, eh bien, si vous allez tout au fond du pôle ludique, vous aurez une table sur laquelle vous avez au-dessus un téléviseur sur lequel est projetée justement une partie qui s'appuie sur Roll20, donc qui a eu normalement encore lieu, je crois, deux fois aujourd'hui, hein, quelque chose comme ça, au moins une fois à partir de 14h.
Je vais en faire une à 14h, et après, c'est à quelle heure qu'on termine aujourd'hui?
C'est 19h la clôture, donc je pense que tu as encore
du temps. Je pense que je vais en faire une à 14h, me prendre une petite demi-heure tranquille, et j'en relancerai une à 16h30.
Et puis, du coup, ces gens sont faciles à retrouver hein, sur les différents réseaux, forums, etc. Si tu veux.
Rollistim a un site officiel qui est hébergé chez moi. Voilà, parce que je suis quelqu'un très engagé dans la neutralité d'Internet et l'auto-hébergement. Donc voilà, les données qui m'appartiennent sont chez moi et pas chez le serveur de quelqu'un d'autre. Voilà, donc quand vous tapez www.rollistim.org, vous arrivez sur l'étagère de ma chambre. Ensuite, pour la promo du logiciel, j'ai des comptes sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Voilà. Et après, je suis actif sur certains forums. Voilà. En général, si vous tapez Rollistim trois fois dans un forum, vous allez m'invoquer.
Merci à vous. Une dernière chose peut-être, Romain.
De mon côté, donc au niveau contact, hein, vous pouvez me retrouver aussi sur www.experiencejdr.fr, sur les réseaux sociaux, donc Facebook sur mon vrai nom, hein, donc Romain Polès, et sur Twitter, si vous voulez le nom de mon Twitter, il faudra regarder le dos de mon sweatshirt.
Enfin, la besace du MJ.
Vous pouvez nous retrouver donc sur notre site internet www.assobmj.fr. On a un forum /forum. Après le nom de domaine et sinon sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter on a une page Facebook La Besace du MJ et Twitter je crois que c'est Besace du MJ quelque chose comme ça BMJ ouais peut-être Asso BMJ donc pour Twitter. Je sais plus exactement, on y va assez peu en ce moment mais
c'est un tort. Merci à vous, excellente journée et bonnes utopiales.